RCF. 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 RCF.
Chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Rencontre. Originaire du nord de la France et depuis 8 ans fille de la charité, elle est principalement tournée vers les jeunes et les personnes isolées. Elle met le charisme vincentien au service des jeunes du lycée aux Anames et sur la paroisse Saint-Antoine de Châlons où elle est attentive aux plus fragiles. Ma rencontre d'aujourd'hui a, malgré son jeune âge, une vie déjà bien remplie. C'est souvent le cas des consacrés comme elle qui donnent leur vie au service des autres. Et Dieu sait que la charité est un domaine qui ne connaît pas le chômage. Sœur Julie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fille de la charité et je vous accueille avec plaisir aujourd'hui pour parler notamment de votre vocation et de votre compagnie. Alors tout d'abord, si vous deviez vous présenter, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors déjà, comme vous disiez, déjà je suis fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Donc la communauté se situe sur Châlons, forcément au Mont-Iry, dans le lycée aux Anames. Frédéric aux Anames. Pour faire court, je suis la troisième d'une famille, d'une fratrie de 4 enfants, voilà, de parents divorcés. Je suis d'origine pas de la Champagne, mais je suis ch'ti, du Nord. Voilà, du Nord Pas-de-Calais. Donc voilà, en gros, au niveau du cursus, on va dire c'est un peu ça. J'ai fait des études hôtelières qui durant 10 ans pardon, et qui m'a donné une expérience professionnelle justement sur un temps de 3 ans après mes études.
Donc de cette petite famille.
C'est ça.
Vous êtes devenue donc fille de la charité. Alors pourquoi avoir choisi cette compagnie ?
Alors la compagnie des filles de la charité a deux visages. Deux fondateurs qui est Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Louise de Mauriac. J'ai eu comme la chance d'être animatrice en pastorale pendant 2 ans sur un doyenné qui m'a permis d'aller à différents rassemblements de jeunes, dont la responsable de la pastorale des jeunes était une fille de la charité. Donc lors d'un événement, forcément, la rencontre avec cette femme qui était assez très particulière, qui me posait beaucoup de questions, qui avait toujours le sourire et je me disais mais qu'est-ce qui lui donne ce sourire autant, même quand on voit dans la galère, quand dans les rassemblements, que des fois il y a des choses qui sont difficiles à vivre et qui se passent pas comme on l'a prévu, et elle disait mais ayez confiance, ça passe, la providence est là. Donc ça m'a beaucoup interpellée.
D'accord, alors quelles questions vous vous posiez à ce moment-là ?
Alors c'est vrai que lors de cet événement-là, il y a des questions qui se sont posées à moi. Ayant 20 ans, je pense que c'est un moment de ma vie où on se demande quel sens donner à sa vie. On a 20 ans, voilà, on est dans un temps de la jeunesse où on s'amuse, on est en études, on s'éclate, voilà, les discothèques et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ma vie va plus loin que ça. Et j'étais aussi animatrice aussi dans des groupes de jeunes catholiques pour les aider justement au sacrement de la profession de foi, les confirmations. Donc ma foi a un peu été bousculée à ce moment-là. Et donc les questions se sont venues, voilà, quel sens donner à ma vie ? Et cette fille de la charité m'a vraiment posé question. Donc je lui ai écrit une lettre de 10 pages avec toutes les questions que je me posais. Et elle m'a permis de la rencontrer et un cheminement a commencé à se faire un accompagnement spirituel.
D'accord, donc elle a répondu à vos questions ?
Pas tout, mais... Ah, vraiment, à pourquoi je me posais ces questions-là et l'événement voilà, fondateur qui m'a aidé à le relire avec elle.
Alors donc, votre parcours comme fille de la charité commence suite à cette rencontre avec cette sœur qui répond partiellement à vos questions. Et comment, de votre Pas-de-Calais natal, vous arrivez ensuite dans notre Champagne ?
Alors, faut dire que je suis pas arrivée complètement du nord à la Champagne. Il y a eu différentes étapes. Faut dire que quand on se pose la question de la vocation, forcément, il y a tout un temps de discernement à faire. Donc c'est vrai que j'ai eu la joie et la chance de vivre durant 2 ans et demi, de rejoindre un groupe de jeunes qui se posent la question de la vocation. Mais c'était la vocation de tout genre, hein. Mariage, prêtrise, vie consacrée, laïque consacrée, et avec des filles de la charité et des prêtres de la mission, donc avec le charisme vincentien. Et donc, en fait, ces week-ends-là m'ont permis à me poser la question de me dire je désire consacrer ma vie à Dieu. Donc, il y a tout un cheminement qui se fait. Je suis partie en Normandie, puis je suis retournée dans le Nord. Et du Nord, il y a un an, je suis arrivée à Chalon, ayant eu la joie de prononcer les vœux 2 mois avant d'arriver ici, sur le diocèse de Chalon.
D'accord. Voilà. Donc, vous êtes une toute jeune consacrée dans cette compagnie.
C'est ça. Ça veut dire que officiellement, je suis fille de la charité depuis 8 ans.
Voilà. D'accord. Donc c'est relativement récent.
Récent, tout à fait.
Lorsque vous étiez dans le Nord, vous avez parlé beaucoup des jeunes. Qu'est-ce que vous faisiez avec eux concrètement?
En fait, étant animatrice en pastorale pendant 2 ans sur un doyenné, j'étais responsable de faire la coordination entre tout ce qui existe de groupes, mouvements, jeunes sur le doyenné, mais aussi par rapport à la commission jeunesse, et puis le lien aussi avec la pastorale des jeunes du diocèse, donc participer aussi au rassemblement. Donc j'ai toujours été, depuis l'âge de mes 15-16 ans, j'ai toujours été en lien avec des jeunes, dans l'accompagnement des jeunes dans la pastorale.
Le charisme vincentien est aussi tourné, je crois, vers la pauvreté, vers le plus petit, le solitaire. Comment vous appréhendez cet aspect de votre vocation? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre dans ce domaine?
Alors moi, je dirais pas appréhender, parce que ça fait partie de nous. Je pense que le Seigneur, quand il nous appelle dans la compagnie des filles de la charité, c'est parce que en nous, on a déjà ce feu qui est en nous, du service du plus petit. De celui, en fait, Saint Vincent disait que c'était aller vers celui vers qui personne ne veut aller. Et je sais que moi, depuis toute petite, j'allais souvent vers les copains, les copines de ceux qu'on voulait pas s'occuper d'eux, quoi. Et donc, la particularité aussi au niveau par rapport aux jeunes, j'ai toujours une attention envers le jeune qui est un peu mis de côté, qui se sent pas à l'aise. Je me sens toujours attirée vers ce jeune-là parce que pour l'aider aussi à grandir. Car moi aussi, ayant vécu des difficultés, je suis tombée sur des personnes qui ont pu m'aider aussi à oser aller plus loin.
Ouais. Et à votre tour, donc, vous souhaitez
retransmettre
et permettre de faire vivre à ceux qui en ont besoin ce que vous-même vous avez reçu.
C'est ça, oui.
J'ai fait un peu de recherche et Saint Vincent de Paul et Louise de Marillac, j'ai lu ça quelque part, disaient que, au sujet donc des filles de la charité, que votre monastère est les cellules des malades et votre cloître les rues des villes.
Oui.
Est-ce que vous pensez que ça s'applique pour vous?
C'est toujours d'actualité. Quand on dit que nous sommes les rues, c'est-à-dire le service des pauvres, nous sommes pas une communauté où nous sommes enfermés dans un monastère comme le monial. Notre service c'est à l'extérieur, dans la rue, donc c'est pas forcément dans la maison là où on habite. C'était Saint Vincent disait ça parce que à ce moment-là, il avait des filles qui avaient envie de donner quelque chose pour les autres. Et il les envoyait dans les rues pour aller porter le broc de soupe à ceux qui étaient dans les rues, en fait. Donc, on a vraiment ce charisme-là de le service corporel et spirituel. Donc, corporel, c'est-à-dire aider la personne, que ce soit au niveau alimentation ou autre, et aussi, à travers ça, dire que Dieu est présent.
Quelle pauvreté vous rencontrez ici, enfin, vous avez rencontré quand vous êtes arrivée dans la Champagne?
Ce qui m'a marqué le plus, étant dans la communauté, étant dans l'établissement du lycée Frédéric Ozanam, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui avaient une pauvreté d'aujourd'hui, qui est une souffrance au niveau familial. Voilà, des familles qui sont divisées, des familles, des pères qui sont dans l'alcoolisme, après des jeunes qui ont des souffrances en elles, des blessures qui enfuient et qui ne savent pas comment faire avec ça de parce qu'elles ont eu de par leur passé. Donc c'est vrai que c'est une pauvreté qui est pas forcément matérielle, mais qui est beaucoup plus spirituelle, plus au niveau de l'humanité et affective.
Et donc ces jeunes, vous les rencontrez beaucoup, enfin principalement au sein du lycée ?
Oui, parce que je suis salariée au niveau de l'internat du lycée Frédéric Ozanam, un lycée avec 110 jeunes filles de collège et lycéennes. Donc je rencontre tous les soirs pour les nuits.
Et comment ces jeunes voient la présence des filles de la charité au sein du lycée ?
Alors elles, quand elles disent « Ah, tiens !» et quand je suis arrivée en septembre, « Tiens, c'est une bonne sœur qui arrive à l'internat. Qu'est-ce qu'elle va nous faire faire ? Elle va nous faire faire des prières ?» Elle va... Et en fait, ils ont découvert au fur et à mesure que je suis comme tout le monde. Et je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes qui disent, bon, en fait, parce que j'ai le surnom de Sœur Juju, par exemple, et qui dit, au moins la Sœur Juju, elle sait écouter, elle a une proximité. Alors, c'est pas pour me vanter, mais voilà, c'est des témoignages qui ont été donnés. Et ma présence en tant que fille de la charité, même si je suis salariée, bien sûr, mais ma présence, enfin, premièrement, c'est parce que je suis fille de la charité. Donc une présence de Dieu à travers ces jeunes pour une écoute bienveillance et une proximité aussi.
Qui vous êtes un peu la grande sœur ?
Oui, c'est un peu ça. Oui.
Vous avez aussi une mission au sein de la paroisse Saint-Antoine-Saint-Martin,
oui,
sur laquelle le lycée est implanté. Quelle y est concrètement votre mission ?
Alors la mission sur la paroisse Saint-Antoine-Saint-Martin, c'est au niveau des sixièmes de la profession de foi, où j'accompagne un groupe de sixièmes, et aussi au niveau de la liturgie. Étant musicienne, je donne de mon temps et de mon talent au niveau de la paroisse.
Alors est-ce que là aussi, sur ce terrain, vous accompagnez les familles spirituellement, enfin les enfants ?
Alors c'est...
Vous avez un rôle à ce niveau-là ?
C'est un peu un rôle dans le fait aussi que j'accompagne une enfant en âge scolaire qui se prépare au baptême. Donc là, le lien avec la famille est très présent. Mais après, le lien avec les familles au niveau du groupe de sixième, eh ben, avec cette modernisation de notre société, elle se passe plus par SMS ou téléphone.
Voilà. D'accord, oui, c'est vrai que c'est...
Mais des mots se disent dans des SMS très forts parfois.
On sait aussi qu'il y a beaucoup de laïcs qui s'engagent auprès des pauvres, voilà, auprès du plus petit, du migrant. On voit, je crois, sur la paroisse Saint-Antoine notamment, il y a quand même un accueil du migrant qui est assez important. Donc des laïcs le font. Qu'est-ce qu'une fille de la charité comme vous apporte comme valeur ajoutée dans l'action, dans la relation avec le plus petit ?
Alors... La particularité, c'est que c'est sûr que tout ce que l'on fait, on n'a pas besoin d'être fille de la charité. C'est que, en fait, on a fait acte de notre consécration à Dieu pour le service des pauvres. La règle des filles de la charité, c'est vraiment ça. C'est consacrer au Christ pour le service des pauvres en vue d'une vie fraternelle, donc en vue communautaire. Et la particularité, c'est que lorsque nous sommes au service, ce n'est pas en notre propre nom, mais c'est au nom du Seigneur. Et le fait d'avoir aussi une vie communautaire, une vie de prière, cela nous permet d'être imprégnés de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour pouvoir être un peu, même parfois beaucoup, sa présence auprès des personnes que l'on sert.
Ça facilite peut-être les échanges et... Les gens se confient peut-être plus facilement à vous ?
Je vois, c'est plus par exemple au niveau du lycée, que ça soit des professeurs, que ça soit des personnes, des élèves ou de l'administration. Et dès qu'ils me croisent, c'est vrai qu'il y a un contact qui est peut-être plus facile et qui leur permet peut-être d'avoir une parole qu'ils n'auront peut-être pas... La possibilité de faire avec leurs collègues, parce qu'ils savent qu'il y a une confiance qui s'établit dans la relation.
Alors ces jeunes, quelles sont leurs attentes ? Quelles attentes expriment-ils quand ils vous rencontrent, quand ils se confient à vous ?
Alors, par exemple, je sais que cette année, ça a été une joie pour moi. Quelques jeunes ont fait une demande de pouvoir mettre en place une chapelle, un oratoire dans l'internat. Et pour moi, c'était un peu bousculant parce que je me suis dit « Waouh !» Donc, c'est vraiment un signe de Dieu qui est présent. Et donc, nous avons mis en place un oratoire, une chapelle à l'étage de l'internat pour faire un temps de prière chaque semaine avec les jeunes. Donc, ça montre bien que ma présence est là, mais pour les aider justement à, elles, se trouver aussi une autonomie dans leur foi. Et non pas forcément toujours compter sur quelqu'un, mais je suis là pour leur donner l'élan justement, de leur donner envie d'eux.
Il y a donc des attentes spirituelles fortes chez les jeunes ?
Oui, il y a quelques filles qui ont des attentes vraiment. Et par exemple, si j'ai 5 minutes de retard, elles viennent me chercher, elles me disent « Sœur Julie, c'est l'heure de la prière, là, vous ne nous avez pas oubliés ?» J'ai dit non, on a dû créer, il y avait un problème avec notre tâche, donc voilà, j'arrive quoi. Donc il y a vraiment une soif, et puis il y a aussi des filles qui ont du mal à oser, donc que j'aille frapper à la porte et dire, vous savez, c'est l'heure de la prière, ah, oui, on arrive.
Alors l'enseignement catholique, c'est là donc où vous êtes salarié, pensez-vous que c'est un terrain de mission et un oui. terrain où vous êtes réellement disciple missionnaire ?
Ah, tout à fait, oui.
De quelle façon
Disciple missionnaire, le sens de disciple, être disciple, c'est qu'être quelqu'un de debout. Et missionnaire, c'est annoncer l'évangile. Donc moi, je sais que chaque matin, en me levant, j'essaye voilà, je dis à Dieu, en fait, je te présente cette journée, que ça soit le prévu et l'imprévu. Donc être missionnaire, c'est annoncer que Dieu les aime.
Il les aime donc comme ils sont et vous passez votre journée à les accueillir, à aller à leur rencontre.
Oui.
Vous faites aussi partie de l'équipe pastorale des jeunes du diocèse. Concrètement, qu'est-ce que vous organisez avec cette équipe et de quelle façon vous rencontrez les jeunes par ce biais ?
Alors, c'est vrai que notre mission est d'essayer de mettre des projets en place, un peu de créatif, avoir un peu de création où l'on pourrait proposer des événements, des rassemblements tout en vivant les rassemblements qui se sont vécus depuis plusieurs années. Bien sûr que c'est pas de tout foutre en l'air, hein. Voilà, non, surtout pas, parce que le travail qui a été fait avant était très bien et il se continue. Mais voilà, après, notre mission aujourd'hui, c'est c'est organiser ces temps forts ou des temps forts spirituels un peu fraternels, beaucoup fraternels et qui et aussi de soutenir tous ces groupes, ces animateurs en pastoral ou dans le diocèse ou localement nous sommes invités à aller les rencontrer pour les aider, les soutenir, peut-être prévoir aussi des temps de formation pour les aider dans l'animation auprès de leur groupe des jeunes. Donc nous sommes plusieurs dans cette équipe et nous avons chacun des lieux du diocèse où nous sommes référents et nous avons un accompagnement à vivre avec eux. Et puis bien sûr aussi, il y a aussi aider les jeunes à vivre ce grand temps de jeunesse des GMJ, voilà, qui se passera à Panama et
en 2019, donc fin janvier. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc c'est une mission qui est assez large et tout en mettant en place, en essayant de, nous sommes en train de voir pour mettre en place un projet pastoral, d'écrire un projet pastoral qui, par rapport à la lettre pastorale de l'évêque, qui nous invite à voilà à oser, avoir de l'audace pour pouvoir permettre aux jeunes de oser dire leur foi. De vivre déjà quelque chose de leur foi pour oser aller témoigner et être eux-mêmes disciples missionnaires.
C'est aussi la démarche que mène le pape en ce moment avec le synode des jeunes. Hein. En ce moment, c'est la semaine du pré-synode pendant laquelle il écoute les jeunes du monde entier, voilà, leurs attentes, etc. Et voilà, est-ce que vous suivez un peu cet aspect-là de la pastorale des jeunes dans
oui,
le monde?
Oui, d'ailleurs, grâce à les réseaux sociaux, qui est quand même très intéressant parce que nous, sur Facebook, on a la possibilité de suivre un peu ce qui se passe. Et puis le diocèse ici met pas mal d'aussi de publications qui nous aident à suivre ça. Je sais que nous sommes quelques-uns de l'équipe aussi à être présents le 5 avril dans cette rencontre justement avec le service d'évangélisation, de la nouvelle évangélisation des jeunes, où nous sommes invités à réfléchir justement par rapport à ce synode.
Sœur Julie, il y a une petite question subsidiaire, un petit bonus que j'ai envie de vous poser, c'est quelle phrase de l'évangile serait pour vous parole d'espérance? Une parole en fait que vous adresseriez aux pauvres, aux plus petits, aux jeunes que vous rencontrez pendant vos missions?
Alors moi, je sais que la parole du Christ dans Saint Jean, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », pour moi, c'est toute un trajet de vie à vivre parce que être sur le chemin permet d'être avec lui sur ce chemin, oser être avec lui pour pouvoir aussi être en vérité. Parce que être en vérité aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui est très important, ce qui permet d'être libre dans la liberté et la vie, parce que nous sommes faits pour vivre, voilà, pour le Christ en tant que bien sûr chrétienne. Et ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent très bien prendre cette phrase-là aussi. Ceux qui sont laïcs, ils peuvent se retrouver sur un chemin accompagné par d'autres personnes, mais pour vraiment vers une libération.
Être en vérité, c'est être éducateur aussi.
Oui, c'est aussi être en vérité, c'est-à-dire ce que l'on demande en tant qu'éducateur, ce que l'on demande aux jeunes, c'est de le vivre soi-même d'abord, avant de leur demander de vivre ça. Et ça permet une vérité et une relation avec le jeune qui est en vérité et non pas dire oui, elle me demande ça, mais elle ne le vit pas. Pour moi, c'est très important. La vérité, c'est quelque chose qui est au plus profond de moi, dans mes tripes, qui me poursuit depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a un évangile qui est passé il y a quelques jours où il disait « La vérité vous rendra libre ». Donc voilà, cette vérité pour une libération.
Est-ce que vous avez une personne dans votre vie qui vous a particulièrement marqué, en plus de cette fille de la charité que vous aviez rencontrée donc, votre vocation, enfin votre départ dans cette compagnie. Est-ce qu'il y a quelqu'un
Alors c'est sûr que étant de la génération Jean-Paul II, je ne peux que répondre à cette question-là. Bien sûr, Jean-Paul II qui m'a beaucoup marqué et avec sa phrase qui disait très souvent « N'ayez pas peur ». Et le fait de ne pas avoir peur, moi qui n'ai pas toujours a du mal à avoir confiance. Donc c'est souvent cette phrase-là de Jean-Paul II, n'aie pas peur, continue, avance au large. Et voilà, n'aie pas peur de témoigner de ce que tu vis et ce que le Christ met en toi.
Et le pape François actuel, François, est-ce qu'il vous booste un peu dans votre mission?
Un peu beaucoup. Surtout quand il dit qu'il faut sortir de son canapé. Et quand on voit que parfois, c'est vrai que des fois on est très bien chez soi et qu'on n'aurait pas forcément envie de sortir. Et étant présente au GMJ à Cracovie, quand j'ai entendu cette phrase-là, sortez de votre canapé, c'était aussi sortez de vos habitudes. Osez une créativité, osez aller au-delà. Et c'est toujours vraiment oser aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment une phrase dans ma vie de tous les jours où je me dis toujours oser aller plus loin. Avec patience, bien sûr, parce qu'on ne peut pas toujours faire tout de suite, même si on est dans une société du tout de suite, avec beaucoup de patience. Mais vraiment, oser aller plus loin, pour moi, c'est important.
Oser aller plus loin, est-ce que c'est quelque chose de facile à dire à quelqu'un qui est dans le désarroi, dans la tristesse, dans les problèmes? Je suppose que vous en rencontrez souvent, des personnes comme ça, des familles ou des jeunes. Est-ce que c'est facile à dire ça?
Pas forcément. Ce serait pas forcément la phrase que je dirais au début. Parce que quand on rencontre des personnes en souffrance, c'est vraiment une écoute en premier. Vraiment l'écouter. Et si vraiment on sent que la personne a besoin de conseils, mais ça se fait pas en une seule fois. quand je dis oser aller plus loin, c'est oser croire que l'on n'est pas tout seul, que le Christ est là pour nous accompagner. On a la chance aussi parfois de tomber sur des personnes qui peuvent nous accompagner et qui sont au quotidien et qui nous permet peut-être après de dire à cette personne-là, mais Dieu voilà, est là avec toi et te demande peut-être aussi de oser aller plus loin parce que tu es capable, parce que tu es aimé de lui.
Eh bien, sœur Julie, merci pour cette rencontre et ce beau témoignage.
Je vous en prie.
Vous accompagnez beaucoup de personnes sur le chemin. Merci pour ce beau travail que vous faites sur votre paroisse et sur le lycée aux Anames. Vous témoignez donc de cet amour que le Christ vous transmet et vous permet, voilà, ça vous booste pour votre mission. Vous emmenez les autres sur le chemin de la foi, ce chemin qui est pour vous la vérité et la vie pour une plus grande liberté. Merci de nous avoir partagé ceci. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cette rencontre sur rcf.fr en podcast. Je vous dis au mois prochain pour une prochaine rencontre.